je veux en discuter avec Vincent Geluzzo de l'Institut économique de Montréal, parce qu'à chaque fois qu'on a des sujets demande une prise de position, souvent il est à l'encontre. Salut Vincent Geluzzo.
Bonjour Danny.
Bon, on s'est parlé un petit peu sur l'heure du midi. J'ai dit, va encore me mettre en beau tabarnouche, lui. Comment tu vois ça, toi, Vincent? T'es un gars qui est très pro-libre marché. Sauf que là, de la façon dont M. Gélina nous explique ça, c'est difficile d'avoir des billets.
Ben, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la loi 25, telle qu'elle est proposée maintenant, va nuire beaucoup aux amateurs de sport et de concerts, mais aussi à l'industrie culturelle et des sports en général.
Par contre, en ce moment, si je veux un billet pour aller voir le Canadien, pas capable d'en avoir. Si je veux des billets pour aller voir, Metallica vient, pas facile à avoir. Ça s'écoule dans quoi? Même pas une heure, 40 minutes parfois même.
Danny, si les billets s'écoulent aussi vite, c'est parce que les centres culturels, les arénas, les colisées, les amphithéâtres, ils fixent le prix plus bas.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est pour rentrer dans leur argent. Puis ce qu'ils font, c'est qu'ils transfèrent tout le risque aux scalpeurs, les gens qui vont revendre les billets. Comme ça, eux n'assument pas tout ce risque-là. Et eux autres peuvent rentrer dans leur argent et ensuite, les billets sont vendus selon qu'est-ce que les consommateurs sont prêts à payer.
Ouais, mais ce genre de show-là, Vincent, c'est déjà vendu. On sait que ça va se vendre. Que ce soit des robots, que ce soit des scalpers ou que ce soit le peuple, ces shows-là se vendent. C'est pas des shows, tu sais, qui demandent un grand marketing de vente, là.
Pas nécessairement. Il y a des shows aussi que si le prix est fixé trop haut par l'aréna par en particulier, c'est peut-être qu'il y a moins de gens qui vont vouloir le voir, mais il faut surtout pas oublier la flexibilité qu'offrent les sites de revente. Par exemple, tu peux avoir des billets à la dernière minute. Si le prix est trop bas, là-dessus, tu vas avoir des files d'attente, tu vas peut-être aussi des gens qui vont tout l'acheter en ligne d'un coup. Grâce à ces services de revendeurs-là, tu peux acheter des billets à la dernière minute, tu peux revendre tes billets à la dernière minute, parce que des fois, tu peux avoir un imprévu, ou si tu peux avoir des billets selon ce qui nous convient, c'est un service, si c'était pas nécessaire, les consommateurs, les amateurs de sport, de hockey, ou les amateurs de shows culturels ne les demanderaient pas. La raison que ce service-là existe, c'est qu'il joue un rôle essentiel pour aider le consommateur et le producteur.
OK, mais je prends monsieur, même tout le monde qui gagne 30 000 par année n'a peut-être pas les moyens de se payer une étiquette à 250 ou 400 $. Tu sais, si tu vas là avec ta blonde, deux étiquettes à 400 qui se vendaient peut-être 100$ normalement, dont on n'a jamais eu accessibilité, c'est assez difficile pour ceux-là, là.
Ben,
on en a les auditeurs, nous autres, là, qui gagnent 30 000 par année, rien qu'en masse, là.
Mais Danny, si un revendeur revend trop cher, ben, il fait face au risque de devoir les vendre à perte, ce qui arrive très fréquemment. Par contre, ça, c'est pas très connu, mais on regarde les cas aux États-Unis, selon certaines études. En fait, ça arrive fréquemment qu'ils revendent à perte. C'est eux qui assument tout le risque. Maintenant, le consommateur, lui, est aussi gagnant grâce à toute la flexibilité du service qui apparaît pour lui. Et le meilleur exemple, c'est il y a un article dans un magazine spécialisé sur la réglementation, et un qui s'appelle Regulation, puis un article justement sur les États qui ont enlevé des réglementations un peu similaires sur les revendeurs, puis ils ont remarqué après que les arénas étaient plus remplis, que les gens étaient plus prêts à acheter des billets, que le nombre de billets qui étaient revendus augmentait, puis le prix n'a pas augmenté tant que ça sur la revente. C'est juste que les gens avaient des billets vraiment selon ce qu'ils voulaient et ce service flexible-là permettait aussi au centre de rentrer dans leur argent.
Bon, Mathieu, qui est avec nous dans le 5 à 7, s'est procuré des billets aux États-Unis pour aller voir c'était quoi, du baseball, du football, du hockey?
C'est déjà arrivé pour baseball, moi, j'ai fait ça.
Tu payais quoi, le double, le triple du billet?
En fait, moi, je me suis déjà procuré des billets de scalper dans la rue, puis des billets aussi StubHub. StubHub m'avait coûté un peu moins cher parce que tu le fais pas nécessairement sur le spot, mais une fois c'était le double, puis l'autre fois c'était le triple.
Bon. C'est là où j'ai de la misère. Je me dis, il y a quelqu'un, à quelque part, Vincent, qui s'en met dans les poches grassement. Là.
OK.
Oui, je veux bien croire que ces gens-là prennent le risque, mais pas tant que ça, parce que ce sont souvent des shows qui se vendent bien. C'est ça que Daniel Gélina nous expliquait aujourd'hui.
Mais imagine maintenant le problème de pas avoir. Parce que vraiment, tu sais pas si tu vas aller à un show, tu sais pas si peut y aller. Mm-hmm. Beaucoup de gens achètent les billets à leur dernière minute. C'est difficile de planifier quelque chose dans un agenda très en avance. Les billets, d'habitude, se vendent très, très vite. Ce service-là offre une flexibilité importante. Mais maintenant, imaginons que tout ça a disparu. Si les arénas, maintenant, après ça, fixent le prix trop bas, il y a des milliers de consommateurs qui sont insatisfaits, qui sont fâchés et qui perdent un sentiment de loyauté à l'égard du service, disons, offert par le Centre Bell. Puis si le prix est fixé trop haut, ben, le Centre Bell, par exemple, perdrait des clients. Donc, ce mécanisme-là permet justement, ça peut peut-être avoir l'air à première vue négatif, mais il sert une fonction essentielle parce que l'alternative est définitivement très mauvaise. Ça serait beaucoup plus difficile de faire des shows d'art, ça serait beaucoup plus difficile de faire des shows de hockey. Puis on le voit, les places où le scalping a été rendu permis, ben les arénas sont plus remplies. Il y a moins de sièges vides, il y a plus de gens qui vont participer, malgré que le prix, des fois, tu payes un petit peu plus cher pour faire du scalping, parce que ça offre ce service de flexibilité-là aux consommateurs.
Mais est-ce qu'il y a justement le problème qu'on tente d'enrayer, c'est qu'il y a des gens qui achètent massivement des billets et après ça les revendent, donc ça court-circuite un peu le consommateur pour ça. Est-ce que le moyen le plus efficace, ce serait pas plutôt de contrôler le nombre de billets, essayer d'avoir un meilleur contrôle sur à qui on vend les billets plutôt que d'interdire totalement la revente de billets?
Ben, ça pourrait être une manière beaucoup plus efficace. Là, je sais que l'exemple souvent mentionné, c'est les robots. Mais premièrement, les robots peuvent pas faire ça indéfinitivement sans perdre de l'argent. À un moment donné, eux autres peuvent perdre énormément d'argent. Mais de ce que je comprends, il y a plusieurs places qui l'ont fait. Justement, M. Gélina le mentionnait ce matin, très intéressant. Lui avait trouvé lui-même une manière de bloquer les robots. Lui-même le disait dans l'entrevue. Et qu'il y a d'autres places qui eux-mêmes le font comme un service à leurs clients parce que ça leur permet de développer justement une fidélité avec leur clientèle parce qu'ils ont plus d'informations en évitant le robot. Mais ça, c'est une chose qui peut être faite directement par les groupes privés, pas nécessairement par une loi qui bloque le service très flexible aux consommateurs, aux amateurs de sport, d'avoir des billets de dernière minute, d'avoir des billets selon le temps qui nous convient ou même de revendre nos billets, en même temps que ça permet d'assurer que les groupes, les arénas, les centres sportifs qui font des activités peuvent justement être sûrs de mieux se financer puis d'avoir une clientèle, d'avoir la salle comble.
Ouais, parce que moi, ma question, c'est si j'ai avec cette nouvelle loi-là, je me suis pas penché sur le dossier, donc je suis pas nécessairement au courant. J'imagine que vous l'êtes un peu plus, mais si moi, je veux assister à un match du Canadien un soir donné, tous les billets se vendent, avec cette nouvelle loi-là, comment je fais pour en acheter? Est-ce que je peux le racheter de quelqu'un au même prix? C'est quoi la...
Oui, particulier, ça ne touche pas, là.
Okay. La loi 25 est vraiment étrange. Ça interdit, tu peux juste revendre le billet à la valeur qui a été vendu à la base. Mais tu peux le vendre entre toi et ton meilleur ami. Donc, si Danny achète un billet pour U2 le 8 juillet à Montréal, je sais pas si tu aimes U2, Danny, mais puis qu'il te le revend au même prix ou même avec un petit profit, ça, c'est correct. Mais on ne pourrait plus le faire avec des choses comme billet.ca ou 514billet.com. Fait qu'advenant peut-être un jour l'arrivée des Nordiques à Québec, ben maintenant, ça va être illégal si la loi passe. De pouvoir avoir accès à ce
service. Mais le fameux particulier, le scalper dans la rue, es-tu calculé comme un particulier? Tu sais, on peut prétendre que c'est une connaissance.
Mais il y a plusieurs villes, justement.
Il faut prouver le prix de vente aussi. Ça ne sera pas évident.
Le prix de vente peut souvent être prouvé, c'est écrit sur les billets de base. Mais,
le prix qui te sera vendu dans la rue, c'est difficile à prouver, là, si c'est de l'argent en cash.
Oui, ça, c'est difficile à prouver qu'ils ont revendu comme ça. Mais maintenant, c'est très difficile à enforcer une telle loi. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que il y a plusieurs villes qui l'interdisent, tant aux États-Unis qu'ici, au Québec, au Canada. Et ça a un effet, justement, que ça crée... le nombre de places illimitées dans un centre sportif ou dans une salle de concert comme Albert Rousseau à Sainte-Foy. Et ça permet, justement, après ça, il y a des gens qui attendent plus longtemps, qui font des files d'attente, qui perdent du temps, ou qui n'ont pas les billets qu'eux autres voudraient payer 1000$ au pire pour l'avoir, et eux, ils l'ont pas parce qu'ils sont pas arrivés au bon moment dans la ligne du premier arrivé, premier servi.
Très intéressant comme discussion et débat. On suivra l'évolution de cette loi 25, mais c'est la première fois qu'on me fait penser de façon inverse, là, de ta façon à toi. Puis j'aime ça, je me dis, garde, on est dans un pays libre, pensons ce qu'on veut bien de cette loi-là et on verra ce que ça va donner dans les prochaines journées. Merci beaucoup, Vincent Gélozo.
C'était un plaisir.
Et j'aime